Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Et puis, on ne s'est pas concerté avec Pierre. Mais s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et on s'approche comment de Dieu ? Entre autres, par la prière. Nous allons parler de la prière ce matin. Nous lisons dans Luc, au chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus, j'allais dire me casser les pieds, pardon, me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est après avoir répondu aux pharisiens et aux disciples sur la venue du royaume de Dieu au chapitre précédent que Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Dans la parabole de la veuve et du juge, Jésus souligne que le juge injuste a rendu justice à cette veuve pour de mauvaises raisons. Et Dieu qui est juste, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Il le fera. Je vous le dis, dit Jésus, il leur fera rapidement justice. C'est cette même pensée lorsqu'il déclare que nous sommes, nous qui sommes mauvais, savons donner de bonnes choses à nos enfants et que notre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et comment demande-t-on ? Par la prière. Pour illustrer cette parole de Jésus, je vous avais raconté il y a déjà quelque temps l'histoire de Guillermo, cet enfant abandonné par ses frères dans la forêt, et comment il n'avait jamais cessé de prier sans se décourager, et comment Dieu avait répondu à ses prières. Le 3 novembre dernier, nous nous étions arrêtés sur cette question troublante de Jésus. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ce matin, je m'en tiens à la raison pour laquelle Jésus raconte cette parabole, à savoir la persévérance dans la prière. La prière, vaste sujet. Tout le monde prie. Si, si, même le service des impôts prie. Je vous prie d'agréer, monsieur, madame. Prier, deux définitions. La première, c'est de s'adresser à Dieu, à un être surnaturel pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Deuxième définition. Demander avec déférence à quelqu'un de faire quelque chose, l'y inviter courtoisement ou lui en donner fermement l'ordre. Alors, entre la formule de politesse d'un côté et l'exemple de Jésus qui priait avec une telle intensité que sa sueur devenait comme des caillots de sang qui tombaient par terre, ce que nous lisons dans Luc 22, verset 44. Entre ces deux extrêmes, il y a matière à réflexion. Pourquoi cette parabole ? Un reproche ? pour manque de prière ? Un encouragement, certainement. Je me souviens que dans une prédication, Pierre avait dit, je cite, « La prière, c'est comme la respiration quotidienne, régulière, de notre âme dans notre relation à Dieu. » Nous sommes donc dans le cadre de la première définition. Qui prions-nous ? À qui nous adressons-nous ? Réponse, à Dieu seul. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul à Timothée dans la première épître, au chapitre 2 et verset 5. Alors, comment respirez-vous ? Je ne connais pas vos difficultés dans la prière individuelle, mais je connais la réalité de nos réunions de prière. Et face à ce texte, j'aimerais partager quelques réflexions avec vous ce matin. Cette parabole contient un message clair. Jésus nous invite à prier continuellement sans nous décourager. Jésus ne compare pas Dieu à ce juge, mais il dit que si la persévérance obtient justice d'un juge qui ne craignait pas Dieu, combien plus notre Père bon et aimant entendra-t-il notre prière ? La nécessité de ne pas perdre courage, c'est certainement l'un des plus grands défis pour notre foi. En persévérant dans la prière, j'apprends la confiance à Dieu. Je prends le temps de le remercier pour sa bienveillance et je demande le don d'une prière persévérante. Pourquoi Jésus associe-t-il la foi à la prière ? Qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la prière ? Qu'est-ce que la foi ? Si la foi, selon Hébreux 11, 1, est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas, on peut compléter en disant que la foi consiste à prendre en compte l'œuvre totale de Dieu, lui faire confiance, lui obéir, suivre ses commandements et agir en conséquence. Pourquoi prions-nous ? Qui prions-nous ? Quand prions-nous ? Comment prions-nous ? Voici quelques questions que nous allons aborder. La prière, c'est d'être en relation avec notre Père céleste. Comme la respiration quotidienne, régulière de notre âme, dans notre relation à Dieu. Jésus a raconté plusieurs histoires pour nous parler de son Père. La plus connue et la plus bouleversante est sans doute celle que rapporte Luc au chapitre 15, celle de ce père qui étreint son fils qui était perdu et qui est revenu après une longue absence. Et ce geste d'amour du père permet au fils de se retrouver. Alors l'histoire ne traite pas directement de la prière, mais elle dit le fondement de la prière. À savoir, notre vraie demeure, c'est Dieu. Vivre sans Dieu, c'est vivre en exil, coupé de nos racines. Dieu n'est-il pas notre Créateur ? Prier, c'est revenir à ce pourquoi nous avons été créés, pour une relation de confiance avec notre Dieu. Mais l'histoire raconte aussi que le père a un autre fils qui était bien dans la maison du père, ou plutôt à côté de son père, sans réelle relation. Et le père en est bien attristé. Combien sont-ils les enfants de Dieu que le Seigneur aimerait voir plus proche de lui ? Le Seigneur nous invite à ne pas rester sur le seuil de la maison. Dans son enseignement sur l'approche de Dieu, notre Père, Jésus nous invite à une relation de liberté et d'intimité, où nous nous savons enfants de Dieu, aimés et pleinement bienvenus en sa présence. Cette intimité est bien décrite dans Matthieu 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus souligne cette intimité confiante qui nous permet ce partage personnel assorti d'une promesse. Ton Père te rendra au moins le bienfait de la rencontre. Seigneur, apprends-nous à prier. Cette demande des disciples de Jésus nous rejoint. Heureux ceux qui veulent continuer à apprendre à prier, à mieux prier, à ceux qui veulent aller plus loin, à approfondir leur relation avec Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prier, nous le retrouvons dans Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 4. Et à cette demande des disciples, Jésus leur propose cette prière magnifique du Notre Père. Soulignons ici que si nous avons relevé l'intimité de la rencontre dans le lieu secret avec notre Père, Jésus relève que nous nous adressons à notre Père céleste et prions « Que ton nom soit sanctifié » et soulignons que sa volonté prime sur la nôtre. Jésus a pris ses disciples là où ils en étaient, avec leurs limitations. Jésus a pris le temps de les former. Il prie avec eux. Il prie pour eux. Revoyez par exemple la prière sacerdotale dans Jean 17. Il leur fait confiance et il les envoie en mission. Luc 9 et 10. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous encore aujourd'hui. Alors partons de là où nous en sommes, pour grandir, progresser, chacun son rythme, en la présence de Dieu, par l'Esprit Saint. Alors, je vous propose effectivement d'aborder cette difficulté de prier et comment résoudre nos problèmes et quels sont les bienfaits. Donc, vous voyez donc ce plan. Donc, la force de l'habitude d'abord, concernant les difficultés que nous rencontrons. Oui, la force de l'habitude, chez soi, mais aussi en Église. Chez soi, la mauvaise habitude qui consiste à vouloir prier plus tard, quand on aura le temps, bien sûr, et qu'on aura fini de traiter les choses qui sont les priorités dans notre vie. À l'Église, peut-être l'habitude de ne pas prier. Mais les autres, ils prient bien. Puis moi, je suis timide. On a toujours des bonnes raisons, et vous les connaissez. Et puis, à cela, la force de l'habitude et la comparaison. Ben oui, parce que les autres, vous voyez, ils prient bien. Moi, je ne sais pas prier, je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que c'est qu'une belle prière ? Seigneur, crée en moi un cœur pur. C'est pas une belle prière, ça ? Pourtant, devant Dieu, il n'y a pas de classement. Et notre seul modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette remarque vaut bien sûr pour la prière publique en assemblée, mais aussi pour la prière privée. Et puis, il y a les contraintes de notre mode de vie. La dispersion avec la difficulté de trouver un temps et un lieu pour se consacrer à la prière, c'est une réalité. La fatigue, les horaires, l'éloignement, plus spécifiquement pour la réunion de prière. Et puis, un autre obstacle également, c'est la valorisation de la spiritualité contemporaine. Toute cette spiritualité ésotérique, le New Age, traitant du développement personnel, de l'équilibrage des chakras, de l'énergie de la terre, etc., etc., qui peut nous séduire et nous éloigner de Dieu. Retenons que devant Dieu, nous sommes tous des apprentis et que Dieu lit dans nos cœurs et nos pensées. Que la prière n'est pas un exercice démonstratif, mais une démarche personnelle devant Dieu que l'on aborde avec humilité. Souvenez-vous de la description que Jésus fait de ce collecteur d'impôts qui se frappait la poitrine en s'humiliant en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Et à côté, il y avait le pharisien qui s'énorgueillit de ne pas être comme les autres, qui sont bien moins bien que lui, évidemment. C'est dans Luc 18. Et Jésus conclut en disant « Je vous le dis, lorsque le collecteur d'impôts descendit chez lui, il a été considéré comme juste, mais pas le pharisien. » Et un autre obstacle, qui est plus surprenant, c'est celle de la souveraineté de Dieu. Matthieu 6, versets 7 et 8, c'est l'enseignement de Jésus lors du sermon sur la montagne. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors, s'il sait, pourquoi lui dire s'il sait déjà ? À quoi bon lui demander de quoi nous avons besoin s'il sait déjà ? La prière sert-elle à quelque chose si Dieu opère toutes choses selon les décisions de sa volonté ? C'est dans Éphésiens 1, verset 11. Don Carson, dans la prière renouvelée, relève qu'il n'est pas rare que la compréhension de la souveraineté de Dieu ait comme première conséquence un étiolement de la vie de prière. Il ajoute « Cela fut mon expérience personnelle, non à cause des doctrines elles-mêmes, mais à cause de mon incapacité à les faire concorder avec les autres enseignements de la Bible. » Et encore, n'est-ce pas contradictoire avec la parabole de la veuve que nous avons lue, qui obtient gain de cause parce qu'elle a multiplié ses demandes ? Notons ici que le propos du Seigneur n'était pas d'harceler Dieu pour obtenir une réponse positive, mais était de souligner que si un homme mauvais pouvait répondre positivement à la demande d'autrui, à combien plus forte raison Dieu qui est juste et qui nous aime répondra-t-il à ceux qui crient à lui, toujours selon sa volonté ? Il fera justice à ceux qu'il a choisis. Et les textes de l'Écriture qui affirment la souveraineté de Dieu sont nombreux. Dieu met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Éphésiens 1. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115. Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce. Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Matthieu 10. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Jérémie 10. Puis il y en aurait d'autres encore. Et pourtant, nous sommes invités à faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Remarquons que dans ce type de prière, il ne suffit pas de dire, mais de s'investir, même de se battre et de combattre parfois. De plus, il faut être en phase pour qu'un récepteur reçoive un message. il faut que l'émetteur soit sur le bon canal. Alors, plutôt que de considérer la souveraineté de Dieu comme un obstacle à la prière, reconnaissons que Dieu est souverain et que nous devenons seulement partenaires de Dieu. Dans ce vis-à-vis avec Dieu, la prière doit viser la convergence entre la volonté de Dieu et la nôtre. La prière est légitimée parce que Dieu nous invite à prier et avoir recours à lui. Il entend nos prières. Il est attentif à nos cris, mais il répond selon sa volonté propre. L'humilité et la soumission sont partout présentes dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples, celle d'Abraham, par exemple, pour sauver Sodome. Alors, une fois qu'on a dit toutes ces difficultés, comment avancer ? D'abord, suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Méditons sur la place qu'avait la prière dans sa vie. Il prie souvent seul, à l'écart. Matthieu 14, 23, par exemple. Après avoir envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. C'est seulement après ce moment qu'il va rejoindre ses disciples qui sont dans la barque battue par les flots. Cet épisode où il les rejoint en marchant sur les eaux. Il ne fait rien par lui-même. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Il demeure uni au Père, et chaque étape de son ministère est préparée par la prière, jusqu'à l'heure ultime de son agonie et de l'abandon sur la croix. Il prie encore en s'appropriant les paroles du psaume 22 qui dit « La douleur et l'abandon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et la confiance finale en Dieu. Hébreux 5, verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et encore aujourd'hui, nous l'avons chanté tout à l'heure, il intercède pour nous dans sa gloire. Donc, la première chose à faire, suivre l'exemple de notre Sauveur. Et puis, rectifier un petit peu les problèmes qu'on a soulignés tout à l'heure. Donc, créer les conditions favorables et nécessaires. Ensuite, concernant nos difficultés, notre attitude, nos dispositions face à la prière tournent, je crois, autour de deux mots-clés. Volonté et discipline. Nous devons rester vrais et honnêtes lorsque nous nous adressons à notre Père Céleste. Que notre prière soit dans le lieu secret, en famille ou dans l'Église. Et concernant la prière individuelle, d'abord choisir un lieu. Le Seigneur nous invite à nous retirer dans notre chambre, à fermer la porte pour entrer dans ce lieu secret, pour plus d'intimité, où il pourra accueillir ce que nous lui confierons. Faire cette démarche signifie que nous laissons le reste pour nous retrouver seul à seul avec notre Père Céleste. Et nous fermons la porte pour ne pas être dérangés. J'ajoute, laissez votre portable à la porte. Et puis choisir un temps dédié. Il nous faut réserver des temps spéciaux dédié à la lecture de sa parole et à la prière, malgré et surtout peut-être aux sollicitudes de la journée. Bien sûr, nous pouvons prier en tout temps et en tout lieu, en voiture, dans la rue, dans nos activités, Cela m'arrive souvent dans mes sorties de vélo, et pendant plusieurs heures, j'ai le temps de prier. Mais l'approfondissement demande un temps choisi et protégé, un temps réservé où nous faisons silence, nous l'avons chanté aussi, nous faisons silence pour entendre ce que Dieu veut nous dire. La prière réclame le recueillement. La tentation est grande de ne prier que lorsque nous trouvons le temps. Choisir un lieu et un temps réservé, c'est comme se rendre à un rendez-vous avec le Seigneur, porteur d'espérance. D'ailleurs, qui fixe le rendez-vous à l'autre ? Ces temps réservés structurent notre marche avec Dieu. Concrètement, on expérimente que Dieu veille sur nos journées les plus chargées lorsqu'on prend de les aborder avec lui. Cela n'exclut pas les difficultés qu'on peut rencontrer, mais Dieu nous donne les ressources nécessaires pour les affronter. Et puis Dieu demande notre implication. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et donc il nous appelle à la vigilance. Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Matthieu 26, 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc 13, 33, « Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Alors, notre implication dans l'œuvre de Dieu. Matthieu 9, 37 et 38. Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, les ouvriers, ce sont les autres, mais c'est nous-mêmes. Paul demande à plusieurs reprises que l'on prie pour lui et pour son ministère. Et dans plusieurs épîtres, il le répète. Persévérez dans la prière, mettez-y toute votre attitude de reconnaissance, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, nous devons prier les uns pour les autres. Paul lui-même demande à ce que l'on prie pour lui, avec une attente précise. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Jacques 5, 16, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Dans Colossiens 1, versets 9 à 11, Paul et Timothée ne cessent de prier pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance, de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Matthieu 5, 44, même il nous est demandé de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. La prière est un privilège accordé et encadré par le Seigneur. La prière agissante du juste agit avec une grande force. Alors, quels sont les bienfaits de la prière ? Vous avez une petite idée. D'abord, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. La prière nous fait expérimenter la présence de Dieu. Et reliés au CEP, nous sommes les sarments. Nous sommes nourris de la sève, de sa vie et de sa force. Et c'est en sa présence que nous trouvons la paix et la sérénité. Et puis, la prière nous fait saisir les promesses de Dieu. Il y a une différence énorme entre connaître et vivre une situation. C'est une chose de connaître les promesses de Dieu. C'en est une autre de les saisir par la foi face aux circonstances parfois exigeantes. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est au bout du chemin. Et puis la prière nous transforme. C'est là en particulier que se réalise le renouvellement de notre intelligence dont parle Paul dans l'épître de Romains, verset 2. Et le vouloir et le faire. Et c'est là que le Saint-Esprit agit en nous en profondeur pour nous renouveler. Et puis, l'homme en prière. Et l'homme tel que Dieu l'a voulu et tel que Dieu l'aime. Prier, c'est entrer dans le projet de Dieu et faire la joie de notre Créateur. C'est retrouver nos racines. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors des années de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Il y aurait encore bien des choses à dire, mais il faut conclure. Que retenir de cette méditation? Jésus a raconté la parabole pour nous montrer que nous devions toujours prier sans nous décourager. C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Ainsi, nous sommes invités à nous examiner devant Dieu. Quelle est la qualité de notre relation avec notre Père céleste? Décelons les obstacles que nous rencontrons et demandons à Dieu de les ôter, tant dans notre prière individuelle que lorsque nous sommes rassemblés. Ayons une attitude d'écoute et d'humilité devant Dieu. Dieu est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Soyons à son écoute et demandons le secours de l'Esprit Saint. Si la prière est la respiration de l'âme, elle est aussi comme un volant d'automobile. Il nous guide et il ne faut pas le lâcher. Que l'on soit sur l'autoroute ou sur une route dangereuse et sinueuse de montagne. Ne cessons pas de prier, quelle que soit la route de notre vie. La prière met en action le bras de l'Éternel. Notre foi est peut-être petite, mais elle s'appuie sur Dieu qui est grand. Parole d'Hudson Taylor, missionnaire en Chine. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Alors la grâce, la miséricorde de notre Père et sa puissance agiront pour nous donner du secours en temps voulu. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Si vous êtes d'accord avec cette prière, je vous invite à vous lever pour le chanter.